Bonjour.
Bonjour.
On est ensemble pour parler du nouvel album de Terrafosa qui est sorti le 24 avril. On va commencer par les choses peut-être un peu les plus simples. Il y a forcément une évolution dans la vie de tous les musiciens. Pour autant, vous, vu la création de Terrafosa et la sortie du premier EP qui avait été, on va dire, un petit peu tardif par rapport à la création du groupe, je voulais savoir, de votre point de vue de musicien, quelle était, selon vous, justement, l'évolution entre cet EP sorti en octobre 2018 et l'album qui est sorti il y a quelques jours.
Bon, déjà pour commencer, le format.
Oui.
Évidemment, on passe de l'EP à l'album. D'un point de vue uniquement musical, on a essayé d'enrichir notre musique avec de nouvelles influences, en particulier la musique classique. Des influences classiques, notamment d'auteurs, de compositeurs romantiques, comme Chopin, Beethoven, etc. Pour ce qui est de la philosophie, de l'écriture des paroles du groupe, on a essayé d'aller plus loin dans notre réflexion, d'approfondir des notions que l'on avait déjà abordées dans notre EP.
Un travail encore plus en profondeur pour que et les paroles et la musique soient encore plus chargées de sens et d'émotion.
Tout à fait, on a essayé d'élargir notre palette. On a voulu amener celui qui nous écoute, l'auditeur, plus loin dans l'expérience que Terrafosa à lui offrir. Et de par le nombre de notions et de thèmes que l'on peut aborder, et d'ailleurs de par ce thème justement de transcendance qui peut être très vaste, on s'est vu dans l'obligation, et même c'était notre volonté, indépendante du thème, d'élargir nos influences et de rendre notre musique plus complexe, plus complète.
Est-ce que ça veut dire que sur cet album, vous avez que des nouveaux morceaux? Je parle de ça. Alors, mis à part Obsession, où on reviendra dessus, puisque c'était déjà un titre de l'EP, mais il y a des petites choses qui ont changé et je voudrais décortiquer un peu le morceau juste après. Mais quand je demande ça, en fait, savoir s'il y a des nouveaux titres, c'est parce que sur l'EP, par exemple, il y avait Litchi, qui était un très ancien titre, et d'autres qui avaient été composés spécialement pour l'EP. Est-ce que sur l'album, c'est que des nouveaux morceaux, sauf Obsession?
Tout à fait. Alors, ce sont des morceaux que l'on n'avait jamais joués auparavant. Mais certains étaient déjà composés depuis un certain temps. Mais oui, à part Obsession, tous ces morceaux sont nouveaux.
Pourquoi avoir conservé Obsession, même si quand on écoute la version album et la version EP, forcément il y a pas mal de changements. Alors je pense notamment à la voix, où il y a un timbre qui est un petit peu différent. Et j'ai l'impression aussi au niveau de la basse, où il y a un petit peu plus de notes, j'allais dire d'arpèges, mais c'est peut-être pas le bon terme. J'ai l'impression que c'est un peu plus moins d'accord en fait, façon de parler, mais plus j'allais dire de la dentelle musicale, c'est peut-être pas joli. Ça a été retravaillé pour avoir plus de consistance dans le même temps. Et en même temps, comme c'est des notes qui sont jouées et pas simplement des accords ou des choses comme ça, je trouve que ça donne une nouvelle légèreté dans un sens à ce morceau.
Tout à fait. Alors, la basse en soi n'a pas changé. Nous n'avons pas recomposé, réarrangé la basse sur le morceau. Je pense que c'est la différence de mix,
D'accord.
la vision apportée par Francis sur ce morceau, qui vraiment a changé, il a modifié, enfin, de par son travail, de par le son apporté, la qualité, je pense, de ce mix. Obsession sonne vraiment différemment. Mais la basse n'a pas été retravaillée. Pour ce qui est de notre volonté de remettre Obsession sur cet album, c'était pour établir un rappel, une sorte de lien direct, de lien musical avec l'EP. On s'est rendu compte en studio qu'il aurait peut-être mieux valu mettre un nouveau morceau à la place d'Obsession. Seulement, c'était trop tard quand on s'en est rendu compte, et donc
Okay.
on a décidé de conserver Obsession.
On parlait des thèmes il y a quelques instants. Est-ce que tu peux revenir sur justement pas tous les thèmes qui sont abordés dans Terrafosa parce que c'est quand même assez large. À chaque fois, c'est toujours des thèmes un petit peu sombres, mais il n'y a pas que ça. Et je voudrais aussi que tu nous donnes ta version du mythe de l'araignée pour toi, puisque j'ai cru comprendre que chaque membre du groupe avait un peu sa vision sur le sujet.
Oui, tout à fait. Alors, pour ce qui est les thèmes abordés par Terrafosa dans un sens très général, c'est la condition humaine. Dans Terrafosa, on va très souvent parler de la condition humaine, de choses en rapport à l'homme. Donc, par condition, la transcendance est un exemple parce que c'est le dépassement de sa condition, le dépassement de soi. On peut aussi aborder, par exemple, le thème du temps qui touche forcément l'homme. Le temps est inhérent à toute chose. Pour ce qui est de ma vision de l'araignée, alors on a un socle commun dans le c'est que l'araignée représente l'adaptabilité, la résilience. Elle peut aussi inspirer la terreur et elle peut parfois faire preuve de grâce. C'est notre socle commun. Il y a un point sur lequel l'on diffère, c'est que pour le guitariste, le guitariste-chanteur Vincent, elle évoque la liberté. C'est très tiré du mythe d'Arachné. Pour moi, elle évoque justement, toujours en rapport avec le mythe d'Arachné cette fois-ci, le besoin de l'homme de faire preuve d'humilité. De faire preuve d'humilité et que cette humilité lui permet de voir ses erreurs, de voir ses défauts et d'accéder plus facilement à l'amélioration, à la transcendance.
Et c'est ça que je trouve intéressant, on va dire, dans Terra Fosa, au-delà de la musique, c'est que vous avez ce socle commun qui vous permet d'avoir une cohérence sur la composition. Et après, vous laissez quand même une porte ouverte à une libre interprétation, parce que justement, vous avez quelques petites divergences. Je trouve que ça se retrouve aussi, enfin en tout cas, ça se retrouvait beaucoup sur les paroles de l'EP, avec des thèmes qui étaient abordés, qui n'étaient pas forcément super évidents en tout cas. Vous l'avez travaillé comment ça sur l'album ?
Ces différences s'expriment en effet, surtout sur les paroles. Mm-hmm. C'est évidemment par les notions que l'on aborde, etc. On a comme vous dites, des visions très différentes et la transcendance en est un très bon exemple car la vision qu'a mon frère de la transcendance est en réalité ce qu'on appelle l'immanence. C'est en soi la transcendance et l'immanence ont la même finalité, l'amélioration de soi. Seulement l'immanence c'est quand on trouve les outils pour s'améliorer à l'intérieur de soi. La transcendance c'est trouver les outils pour s'améliorer à l'extérieur de soi. C'est une notion qui est en réalité très religieuse. C'est pour ça qu'on parle de par exemple, de Dieu transcendant, etc. Sur les paroles, on va chacun proposer quelque chose, on va chacun écrire quelque chose, on va le proposer, et si nous sommes, si ce que nous avons produit ne heurte pas la sensibilité d'un de nous deux, ou alors si nous ne refusons pas d'être le support de ces idées, alors on retravaille le texte ensemble et on le laisse tel qu'il est et on le met en morceaux.
C'est pour ça qu'on se retrouve avec des titres comme The Curse of Chronos ou Dies Irae où il y a un côté religieux ou en tout cas mythologique qui est associé et des titres un peu comme Obsession ou Attrition qui là sont plus internes.
Alors pour ce qui est de Attrition et de Dies Irae, vous avez tout à fait une notion très religieuse. Alors Dies Irae évidemment c'est une notion eschatologique, ça évoque la fin du monde et le jugement des hommes. Pour attrition, c'est la notion justement d'attrition, de regret, du regret pour des motifs humains, regretter parce qu'on a honte, par culpabilité, etc. C'est une notion théologique, elle aussi, car l'attrition mène au repent. Et on parle, lorsque l'on se repent, d'actes de contrition. Ensuite, il y a des Mother Night, c'est un très bon exemple de l'immanence et donc de cette notion qui est dénuée de notions religieuses. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les paroles, vous avez par exemple les cicatrices font le divin ou le berceau du divin, etc. En général, pour ce qui est de la religion chrétienne, du catholicisme, vous ne vous comparez pas à Dieu car l'homme ne peut être égal ni supérieur à Dieu. Et donc quelqu'un de croyant n'écrirait pas ce genre de paroles. Mother Night est plus dirigé vers un public non-croyant.
À quel point est-ce que les thèmes abordés influencent la composition de la musique ?
Je ne serais pas capable de vous dire à quel point. Je peux vous garantir que ça l'influence, mais je ne serais pas capable de vous dire à quel point. Parce que, en fait, parfois, on va composer parce qu'on souhaite retranscrire une notion, un concept musicalement, mais parfois ça va être l'inverse. Ce que l'on va composer va nous évoquer quelque chose et on va mettre cette réflexion à l'écrit.
Le travail avec Francis Cast au studio Sainte-Marthe pour l'album, ça s'est passé de quelle façon ? Comment est-ce que vous lui avez expliqué le concept et comment est-ce qu'il a pu, lui, se l'approprier en quelque sorte ?
Alors, mon frère avait, on va dire, enregistré des démos qu'il a envoyé à Francis Cast. Francis Cast a pu donc travailler en amont, préparer l'enregistrement. Donc, quand on est arrivé en studio, il avait déjà une très très bonne idée de ce que l'on voulait. Et lui-même, de par son expertise, savait comment mettre en valeur notre musique. pour ce qui est du déroulement de cet enregistrement, ça s'est très très bien passé. C'était vraiment une incroyable expérience. Je serais très très heureux de la réitérer.
Mix et mastering, ça s'est passé comment? Parce que j'ai pas eu d'informations en fait sur le sujet a priori, donc c'est Francis Casse qui s'est occupé aussi du mixage.
Tout à fait. Ça s'est passé durant ce mois d'enregistrement, durant la dernière semaine, si je me souviens bien. C'est mon frère, c'est surtout mon frère qui était présent au mix et au mastering. Voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner dessus.
Un mot sur la pochette?
Alors oui, la pochette, c'est une évolution. Enfin, oui, c'est aussi une évolution, on va dire, esthétique de la façon dont on pense le groupe. On a essayé d'y ajouter un côté classique en restant assez minimaliste et d'avoir cet esprit haute couture française.
Pour l'instant, au niveau vidéo, vous avez déjà sorti un playthrough sur Stigmata of the Purest Pain. Ça, c'est aussi le premier titre de l'album. Ensuite, il y a un clip sur The Curse of Chronos qui est sorti, qui est un clip qui a été tourné sur la session d'enregistrement, ou est-ce que c'est un clip qui a été tourné spécialement pour l'occasion?
À la base, on devait réaliser un clip sur Curse of Chronos avec les moyens, disons, traditionnels. Seulement, avec le confinement, on n'a pas pu, et on a décidé de quand même réaliser ce clip. Mmh. Donc on l'a fait avec les moyens qu'on avait à disposition. On a tourné ce clip chez nous, dans notre studio.
Le choix du noir et blanc, ce sera votre marque de fabrique jusqu'au bout?
Il est fort possible que ce soit notre marque de fabrique jusqu'au bout. Je n'ai jamais discuté clairement de la question avec le groupe, ouais. Mais il est vrai que c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, que l'on apprécie particulièrement et que l'on va possiblement, oui, garder tout au long du groupe. Après, il est possible qu'il y ait des évolutions. Je ne resterai pas, je vous donnerai pas une réponse ferme, mais oui, le noir et blanc fait partie de l'esthétique de Terraphosa.
Qu'on retrouvait déjà sur l'EP, qu'on retrouve sur vos photos promo, etc. Une petite question sur le titre The Legacy of the Arachne, un titre qui pourrait presque passer pour instrumental et pourtant il y a une petite voix derrière. Cette voix, elle vient d'où?
Ce sont des chœurs qui ont été enregistrés sur un logiciel. Il me semble que ces chœurs sont de vrais chœurs qui ont été enregistrés en Pologne, si je me souviens bien. Voilà, disons que c'est la seule. Ça reste un morceau instrumental, mais oui, c'est la seule partie organique du morceau.
Et le fait de choisir ce titre-là pour clôturer l'album, un titre qui est quand même assez long, qui est très très planant. Il y a eu des discussions pour savoir où le poser, puisqu'il aurait pu être mis en intermède, éventuellement au milieu de l'album. Le fait de le mettre en huitième.
Alors il y a eu des discussions. On a décidé de le mettre en fin d'album parce que, si je me souviens bien de cette discussion, il clôturait. On estimait qu'il clôturait bien l'album. Il a un côté très épique. C'est assez reposant de terminer sur un morceau sans parole. De plus, mon interprétation personnelle est que il clore très bien justement cette notion, ce thème de transcendance, ce côté très épique, nous amène à penser que la personne que l'on imagine a réalisé cette transcendance.
Sur la façon de jouer, de ton côté, sur ton instrument, qu'est-ce qui a vraiment changé, tu trouves, avec cet album-là? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu es allé plus loin, où tu as pris des risques?
J'ai pris quelques risques sur cet album. J'ai été obligé de progresser techniquement. Bon, déjà en termes d'endurance, c'est évident, mais même en termes de technique, que ce soit de la vitesse pure ou de la rythmique. Dies Irae m'a des techniques rythmiquement demandé quelques efforts. The Curse of Chronos, vous avez un passage en arpège. En arpège à la basse, à 160 BPM, en double croche, si je me souviens bien. Ça m'a demandé pas mal de travail pour le réaliser, pour atteindre cette vitesse. Étant donné que je ne joue pas au médiator, je ne peux pas bénéficier d'aller-retour.
C'est un plaisir, du coup, de pouvoir justement dépasser ses limites et s'améliorer dans ces cas-là, ou ce sera encore une petite source de stress quand l'heure du live arrivera?
Eh bien, je dirais que c'est les deux. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir de progresser, c'est repousser ses limites, donc se prouver que l'on vaut plus que ce que l'on pense valoir. Cependant, c'est aussi forcément une source de stress. Plus vous augmentez la difficulté, plus les lives vous demanderont du travail et vous demanderont de gérer votre stress. Cependant, si votre travail est fait, le stress est bien moindre. même si votre musique est très technique.
Vous avez déjà eu des retours de la part du... Alors, il y a eu plein de chroniques de fête, mais de la part de personnes qui vous suivent depuis le début, des fans ou des gens qui vous découvrent par rapport à l'album qui vient de sortir?
Oui, on a eu quelques retours. Je ne porte pas beaucoup d'attention, que ce soit des retours négatifs ou positifs. Je les entends plus de la part de la bouche de mon frère ou de ma mère, le manager. Je sais qu'on a eu des retours sur le morceau en français, par exemple, ce qui me fait très plaisir, parce qu'en soi, c'était tout de même une prise de risque. On a peu de morceaux métal en français, etc. C'est une langue qui est malheureusement, selon moi, peu chantée. Mais on a eu, dans l'ensemble, des retours positifs, et ça nous fait très, très plaisir.
Pour l'instant, c'est trop tôt pour parler de date de concert, je suppose, vu que le confinement vient tout juste de s'arrêter, en tout cas pour certaines régions, puisqu'on est le 11 mai. Pour autant, est-ce que vous avez déjà des projets, puisque normalement vous deviez venir, alors pas pour jouer, mais pour faire de la promo au Hellfest, mais voilà, il y avait plein de choses en route. Est-ce qu'il y a déjà des dates qui peuvent être annoncées, peut-être en 2021 maintenant?
Pour l'instant, non. Okay. Pour l'instant, je n'ai rien à vous proposer, je veux dire. On est, justement, j'espère personnellement que que la fin du confinement va nous amener sur des dates, mais pour l'instant, rien.
D'autres projets de clips, puisque justement maintenant on peut de nouveau circuler presque librement. Est-ce qu'il y aura un clip un peu plus travaillé ou différent justement de sessions d'enregistrement qui sera proposé dans les semaines ou les mois à venir?
Alors pour le moment, non, pas de clip de prévu. Okay. On va cependant sortir une lyrique vidéo très prochainement.
Qui s'occupe de la réalisation?
Pour ce qui est de la réalisation, de la lyrique vidéo, même du clip hein, que vous pouvez voir sur Internet, c'est mon frère qui s'en occupe.
Vous restez maître du système.
On essaye de faire un maximum de choses. Malheureusement, parfois, le barrage que peut être le barrage économique ou même le barrage des compétences, parce qu'il faut avoir les compétences pour faire certaines choses, nous empêche de tout maîtriser. Mais oui, on essaye de produire un maximum nous-mêmes de tous les aspects de notre musique.
Quelque chose à ajouter à propos de l'album?
J'espère simplement que l'album va plaire aux gens et qu'il suscitera un réel intérêt chez eux. On a essayé d'aborder un minimum en profondeur des thèmes, des notions qui nous paraissent aujourd'hui très importantes.
Je vais vous proposer 5 choses à boire ou à manger. Vous pouvez en prendre une parmi les 5. Vous pouvez choisir entre prendre un donut avec Homer Simpson, une part de pizza avec les Tortues Ninja, un lambas avec Legolas, une bière au beurre avec Harry Potter ou un onigiri avec Sangoku. Vous prendriez quoi?
Un lambas avec Legolas.
Ouais. Pourquoi?
Parce que j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, j'aime bien Legolas. Puis je me demande quel goût ça a, les lambas.
Un mot pour conclure?
Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre radio. J'espère que les auditeurs auront été intéressés par notre discussion. Merci encore.
Merci beaucoup.